La meilleure preuve de réussite d'une œuvre d'art n'est-elle pas sa faculté à être appréciée par-delà les frontières, certes, mais aussi par-delà les années? À l'échelle de l'histoire relativement courte du 7e art, il est intéressant de voir comment un conte de fées filmé, comme Trois noisettes pour Cendrillon, continue à séduire les spectateurs un demi-siècle après sa création. Une des recettes, et non des moindres, étant que tout conte de fées qu'il soit, avec ses codes a priori convenus de belles robes de princesse et de prince charmant, la Popelka de Václav Vorlíček a même le potentiel de séduire jusqu'aux jeunes femmes d'aujourd'hui aux aspirations féministes et égalitaires. S'il est inspiré de la nouvelle version du conte de Božena Němcová, issue des cercles de la Renaissance nationale du 19e siècle, sa version cinématographique en diverge fortement. Servi par une Libouché Shafrankova plus que convaincante dans le rôle qu'il a rendu célèbre, ce film est une adaptation pleine de poésie qui met en scène une Cendrillon dégourdie, malicieuse, voire insolente. Les paysages du film, tournés en Saxe voisine dans le cadre d'une coproduction avec la RDA, contribuent aussi grandement à la magie de l'histoire, comme le constate l'historien des médias Petr Bednářík.
To hecké obsazení tam celkově určitě zafungovalo i v těch dalších.
Je pense qu'une des clés du succès de Popelka, ce sont en effet, outre Libouché et Shafrankova, les autres acteurs. Mais ce qui joue également, c'est le fait que cela se déroule en hiver. Pourtant, le scénario était écrit pour une Cendrillon estivale. Mais la production est-allemande avait besoin que le cadre soit hivernal, donc le tournage a été décalé. C'était très inhabituel pour les contes de fées qui, jusqu'à ce jour, sont toujours tournés en été. L'hiver, la neige, les paysages ont joué un rôle important pour les spectateurs qui, en plus, peuvent faire plus facilement le lien avec la période de Noël à laquelle le conte est diffusé.
Mais outre les paysages enneigés, il y a aussi et surtout la personnalité de cette Cendrillon pas comme les autres. Insoumise face à une marâtre autoritaire et une demi-sœur pleine de mépris, Popelka, elle, n'a rien d'une jeune fille rangée. Elle tire à l'arbalète et fait du cheval comme un garçon, héritage d'un père défunt qui manifestement avait mal choisi sa deuxième épouse mais pensait que la place d'une fille était ailleurs qu'au fourneau. Certes, Popelka aussi est cantonnée pour les besoins du canon de l'histoire, d'où son surnom, mais elle bénéficie de l'aide bienveillante d'un intendant taiseux et d'animaux divers comme des tourterelles, une chouette et un cheval qui la comprend. Même avec le coup de pouce de la magie, indissociable des contes, elle est actrice de son destin et séduit ainsi son prince tant par son adresse que son charme et grâce à des tenues plus appropriées que ses haillons, toutes tombées de la coquille de trois noisettes magiques.
Ah, nous la tenons enfin! Ah, tu nous as fait courir, dis donc.
Elle mériterait la bastonnade, tiens.
Oh, c'est une gamine.
Une sorte de poulet sans plumes.
Un oisillon qui mange des vers de terre. Un lièvre sans oreilles.
Oh,
oh, la demoiselle est méchante. On pourrait la pendre?
Ça serait plus amusant de lui administrer une fessée.
Ou bien l'enterrer vivante.
Hmm? Et c'est tout? Quand les poules auront des dents blanc bec.
Quelle audace, elle me paiera ça. Je vais le faire regretter son impertinence.
Davantage qu'avec ses deux robes magnifiques de princesse, l'une de bal, l'autre de noces, l'espiègle et courageuse Cendrillon semble véritablement elle-même dans son costume de jeune chasseur androgyne, tout aussi à l'aise pour chasser l'épervier que pour se repérer dans les bois et déjouer les tentatives du prince pour la retrouver. À côté d'elle, le prince, aussi joli cœur soit-il, est décrit comme un cancre, plus intéressé par le cheval et la chasse que par les études, un jeune homme auquel elle tient la dragée haute pendant tout le film. L'amour de Cendrillon, ce prince doit le mériter, comme le montre bien la fin de l'histoire, où celle-ci, loin de lui sauter directement dans les bras après avoir enfilé sa pantoufle perdue, lui demande de résoudre enfin les énigmes qu'elle lui avait posées au bal.
Tu connais la réponse à ma devinette? Un visage barbouillé de suie, pourtant ce n'est pas un ramoneur.
Je vais trouver celle-ci, la petite fille dans la forêt.
Un chapeau à plumes, une arbalète et un cheval tout blanc au galop, mais ce n'est pas un chasseur.
Tu m'as donné une belle leçon d'adresse ce jour-là.
La dernière, c'était une robe entièrement brodée d'or et d'argent, mais il ne s'agit en rien d'une princesse. Qui est-ce?
C'est Cendrillon!
Vive Cendrillon! Vive Cendrillon!
aussi la mienne. Si tu le veux, bien sûr.
C'est l'amour suscité par Popelka qui, peut-on l'espérer, fait finalement mûrir le prince, charmant comme il se doit, mais un peu bené. Cet aspect très particulier de la personnalité de Cendrillon, éloigné des clichés habituels, les critiques ne s'y sont pas trompées à l'époque non plus, comme le note Petr Bednářík.
Jedno je, co už ve své době při té premiéře se hodně...
Ce qui a tout de suite frappé les esprits et les critiques, que ce soit en Tchécoslovaquie ou à l'étranger, c'est la façon dont est représentée Cendrillon. Ce n'est pas une jeune fille passive, c'est elle qui trace son chemin toute seule, elle prend des décisions pour elle-même. Dans les contes de fées traditionnels, le personnage principal féminin est dans une situation d'attente. Elle attend le prince qui doit la sauver. Ce film, lui, montre qu'une jeune héroïne comme Cendrillon peut réagir de manière totalement différente aux circonstances.
C'est aussi donc cela qui fait la force d'une histoire qui a su voyager dans le monde et toucher de nombreux pays, nombreux d'entre eux ayant des liens plus ou moins forts avec le régime communiste tchécoslovaque d'alors.
Ce qui est intéressant, c'est que ce film s'est vendu dans 28 pays du monde, jusqu'en Algérie, en Iran, en Islande, en Tanzanie. Il a été présenté avec succès dans des festivals en Inde. Ce conte a été filmé de telle sorte que même en étant issu d'une culture totalement différente, on peut l'apprécier.
Si aujourd'hui les téléspectateurs tchèques sont habitués à voir la grille des programmes de pratiquement toutes leurs chaînes habituelles aligner les contes de fées filmés à Noël, il n'en a pas toujours été ainsi, en tout cas pas à l'époque du tournage et de la diffusion de Trois noisettes pour Cendrillon.
Nebylo. My dneska jsme zvyklí na to, že televizní Vánoce...
Nous sommes aujourd'hui habitués au fait qu'à Noël, les contes de fées se succèdent du matin au soir sur le petit écran. Mais dans les années 70 et 80, la télévision tchécoslovaque n'en diffusait pas autant, tout au plus deux par jour. Donc un conte de fées comme Trois noisettes pour Cendrillon, malgré son succès évident, ne passait à la télévision qu'une fois de temps en temps, plusieurs années ayant pu s'écouler depuis la dernière diffusion. C'est dans les années 1990 que sa diffusion tous les ans le 24 décembre est devenue une sorte de tradition.
Il y aurait encore beaucoup à dire sur les raisons pour lesquelles les contes traditionnels écrits ou leurs versions filmées ont tant de succès en pays tchèque. Échappatoire folklorique au XIXe siècle servant à réhabiliter la culture tchèque ou refuge des cinéastes sous le communisme limité dans leur liberté d'expression, mais aussi des spectateurs ayant besoin de rêver un peu. Les contes tchèques sont plus que de simples histoires et plus que des récits destinés aux enfants comme nous l'avions relaté ici il y a quelques années. Grand-messe œcuménique familiale, le visionnage actuel de Trois noisettes pour Cendrillon lors des fêtes de fin d'année a en tout cas le double avantage d'être à la fois une Madeleine de Proust pour les adultes et une découverte tout à fait acceptable pour une jeune génération par ailleurs biberonnée aux films Disney, Pixar ou les mangas. Mmh.